Midi, 3 minutes! Pascal!
C'est assez!
C'est quoi ces petits sourires-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment apprécié t'insulter dans les dernières secondes?
C'est assez!
Parce que t'as clairement dit en onde que toi, la politesse, c'était clairement un turn-off.
J'ai entendu, j'écoutais, je confirme. Ouais, la politesse, c'était un turn-off.
Manquez-moi de respect, j'adore ça.
Oui!
Oui, c'est ça, dans le fond. Jamais c'est vraiment le fun d'avoir des propos intelligents, puis essayer de passer un discours sans farger une fois et de devenir un spectacle.
Oui, c'est comme la fois où tu nous avais dit que ta scène préférée d'amour, c'est la scène dans
non,
3.
Non, pas d'amour.
Avec Brad Pitt et la fille qui avait kidnappé.
C'est toi qui m'as fait réaliser à quel point c'était toxique, ça.
Il donne une claque d'en face, puis après ça, il fait l'amour.
Bon. Wow. Il l'a quand même kidnappé avant. Okay. Il l'a amené dans la tente, ouais. Il l'a obligé à rester. Il était séquestré.
C'était un kidnapping consentant. C'est ça. C'était un jeu de rôle.
Oui, puis ça a été sur le long terme. Fait qu'il a eu le temps de s'habituer, là.
Ouais.
On est sur le Twitch, twitch.tv, la chaîne BLVD, barre en dessous, 102.1.
Je m'excuse.
Voilà, salutations à toute la gang qui ont couvert les élections hier soir. Une super de belle job, ça a bien été. Félicitations à Jeff, Reg et Max qui ont passé la nuit sur la corde à linge puis se sont levés ce matin pour le show du matin. Écoute. Mais ce qui est drôle, je ne sais pas si tu as vu les images, on les a mis sur la page Facebook. Ils ont comme choisi les trois de ne pas dormir ensemble.
Ce qui est correct. C'est normal. Il y a de la place en masse.
Yannick, on fait une émission de même, on ne dort pas ensemble. Là. C'est normal, là, tout ça. Là.
Quoique la radio, des fois.
Non. Les gars, vous faites une émission ensemble de nuit, vous ne dormez pas ensemble, c'est normal.
Non, mais tu sais, le salon, il est comme là-bas. Ouais. Là, Max a décidé de dormir en studio.
Oui. Mais c'est ça qui est louche.
Les trois tatas, ils ont oublié de fermer le Twitch pendant la nuit.
Le Twitch est resté ouvert toute la nuit.
Ce qui fait en sorte que Max est allé se brosser les dents, il a pris sa petite douche, il a mis ses bobettes, puis après ça, il est arrivé en studio.
Ouais.
Puis il s'est couché. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il dormait, puis il s'est réveillé, il a ouvert les yeux, puis il a vu la caméra avec le petit rouge allumé.
Le petit point rouge, ouais, j'allume, moi je tourne. Là.
Enregistré. Et là, on le voit clairement sur la page Facebook de Boulevard. Là. On le voit se lever comme le père Gédéon, là, en bobette, avec sa flashlight, dans le noir. Puis là, il filme les caméras pour dire laquelle qui me regarde. Puis là, il dit, il y a vraiment une lumière rouge. Puis il part avec des petits pas pour aller fermer le Twitch de l'autre côté.
Mais c'est suspect. C'est
tordant.
C'est suspect de choisir le studio, d'y aller torse nu, de subtilement laisser les caméras ouvertes. Je ne croyais pas à ce scénario-là jusqu'à temps que tu l'évoques, là, Yannick. Puis pour vrai, maintenant, je trouve ça vraiment suspect. J'ai l'impression qu'il a fait exprès. Vas-tu faire de l'argent là-dessus? Mais chaque fantasme est différent pour chacun. Moi, sentir que 100 personnes me regardent sa caméra en train de dormir, ça ne m'intéresserait pas.
Ça pourrait être intentionnel, selon toi? Une façon de se promouvoir, pourtant, c'est pas ce genre-là.
Promouvoir, je trouve ça raide, mais se revoir, j'y crois.
C'est comme un OnlyFans, mais personne paye. C'est un OnlyFans gratuit.
Que lui, il va aller revoir.
Y a-t-il quelqu'un qui veut payer pour me regarder dormir? Non? Ben, je vais le faire pareil.
Ah non, c'était incroyable. Fait que allez voir ça sur la page Facebook de Boulevard. On vous a mis cet extrait-là où vous voyez le père Maxime se lever pendant la nuit pour éteindre les caméras. Sinon, les élections fédérales, c'est bel et bien terminé. Il reste des candidatures là, à officialiser dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. Mais pour l'instant, 168 députés du côté du Parti libéral du Canada, Denis. 144, on n'est pas loin du côté du Parti conservateur. Bloc québécois, 23. NPD, 7. Parti vert, 1. 43,5% des votes des Canadiens, donc 8 370 000 votes, ont été au Parti libéral contre 7 951 000 votes qui a été au Parti conservateur pour un 41,4%. Donc, on est à 2% de différence.
Vous allez me trouver bien niaiseux, là, mais moi, c'est la journée dans l'année que j'y crois un petit peu à la politique. Le lendemain d'un résultat électoral, je suis tout le temps de même. Vague bleue, vague rouge, vague orange, serré, pas de vague, victoire, défaite. C'est la journée où j'y crois un petit peu. Puis j'ai entendu ta première conversation avec Audrey ce matin, puis tu disais que tu étais déçu que ce soit pas un signal plus clair ouais. pour un gouvernement majoritaire.
Moi, j'aurais aimé un gouvernement majoritaire, que ce soit le Parti conservateur, que ce soit le Parti libéral. J'aurais aimé un gouvernement majoritaire parce qu'on s'en va dans une possible crise économique.
Ouais, mais...
faut négocier, puis ça prend un mandat fort, Denis.
Écoute, vu que c'est la journée en 4 ans où j'y crois, permets-moi d'être en désaccord puis de te dire c'est probablement le meilleur scénario parce que ça va forcer ces politiciens-là en temps de crise à sortir un peu de leur ligne de parti.
À se forcer.
À se parler.
Ça va les forcer à se forcer.
Oui, bien, j'espère. Puis demain, je te dirai plus ça parce que je vais redevenir cynique. Mais un lendemain de campagne électorale, je suis un peu fofolle puis j'y crois un peu. Là. Aujourd'hui, j'ai le goût
T'es
de te
belle.
Dire... Tous ces gens-là vont être forcés de travailler ensemble, puis on va voir, maintenant qu'il est légitime, si Mark Carney a de la graine de premier ministre ou pas. On va voir ce que Pierre Poilievre va être capable de faire concrètement dans l'opposition, parce que oui, il va se trouver un siège, puis oui, il va aller à Ottawa. Le Bloc nous dit tout le temps qu'ils sont là pour représenter les intérêts du Québec. Comment ils font pour tirer leur épingle du jeu? Le Bloc, à l'époque où les conservateurs étaient au pouvoir avec Stephen Harper, ils ont travaillé ensemble pour faire avancer quelques dossiers, entre autres au niveau judiciaire, où les deux parties voient les choses sensiblement de la même façon, ça peut arriver. Fait qu'aujourd'hui, comme à chaque lendemain de campagne électorale, mon petit peu d'espoir te dit que la beauté de la chose, c'est que si jamais ça fait pas, on peut retourner aux urnes plus rapidement que prévu, et je vois pas ça comme une mauvaise nouvelle.
La chose qui est weird, c'est que pour une des premières fois depuis que je suis les élections, tout le monde a perdu. Le Parti vert a perdu.
Oui.
Le NPD... Le chef a perdu, le parti a perdu des députés.
Mais je pense que c'est la chose qui devait arriver pour Jack Meade. Il va pouvoir. Puis, tu sais, ils ont interviewé à Radio-Canada avec Patrice Roy un ex.
Ah, alors oui, nous sommes en direct.
C'est
on va à Ottawa, à Mystic. Nous
on
allons
a jamais fait
du côté de Rawdon. Non, on est ici à Québec. Ah bon, d'accord. D'accord, on est ici à Québec avec Jack. Non, Jack Meade n'est pas ici. Donc
on va
aller à la pause. On va aller à la pause. Regardez la carte interactive pour plus de détails. Cet homme se noie. Sortez-le de l'eau. Mon Dieu, pauvre petit.
Denis, ça me fait sûr parce que t'as raison. Puis là, après ça, je me disais, sois gentil, Pascal, tu n'as jamais fait l'exercice. C'est peut-être très complexe.
Je sais que je déraille un peu, là, mais Jeff Fortin, hier, avait l'air d'un gars qui fait ça depuis 20 ans.
Oui.
Il chauffait le troc avec une main sur le volant, il regardait en arrière, il jasait à son monde.
Il était bien préparé. Par contre, c'est deux médias différents, là, avec leur complicité et leur défi. Non, il y a pas un qui est plus difficile que l'autre, mais Jeff, je donne toutes les fleurs de du fleuriste.
Quand tu conduis, faut que tu aies l'air de conduire, puis faut que tu aies l'air de savoir où tu t'en vas. Patrice Roy a de l'air d'un bon Jack. Pour vrai, je prendrais de la bière avec tout un après-midi. Je suis sûr que j'aurais du fun. Mais il n'est pas capable de chauffer le char.
C'était
ça prend
tough.
Quelqu'un d'autre.
J'ai l'impression que dans ses oreilles, il y avait trop de monde qui parlait.
Ben, ça
doit être
insupportable.
Comment il s'appelait celui qui était quasi sourd, là, qui était à Radio-Canada pendant Bernard de Rome?
Ouais.
Je veux dire, Bernard de Rome, dans ses oreilles, le son était tellement fort que tu l'entendais dans son micro, puis il y avait tout le temps deux puis trois personnes différentes qui y parlaient.
Fait que tu t'en rendais compte là.
Fait que là, mais lui, ça paraissait pas, il était capable de gérer ça.
C'est
mais mettez-vous dans leur tête, comment vous êtes capable de gérer trois personnes qui vous parlent dans votre tête alors qu'il y a personne qui entend, puis deux autres personnes qui vous parlent autour du plateau. Là.
Le prompteur devant toi aussi?
Aussi.
Puis la carte interactive qui est aussi.
Puis je sais pas comment ils font, mais quand tu t'envoies un qui est pas à l'aise avec ça, et que ça paraît, moi, je trouve que ça donne énormément de crédit aux autres. Tu parles de Bernard de Rome. Pendant des années, il se faisait parler par 4-5 personnes, puis on s'en rendait pas compte. Ouais. Pierre Bruno non plus.
Mais la technologie
je trouve
a Paul changé.
Larocque excellent. Ouais. En contrôle de son pupitre, là, de son ovni, je trouve Paul Larocque excellent.
Puis Bernard de Rome, tu sais, les gens, quand ils rencontraient dans l'avion, ils disaient « Bonjour, monsieur de Rome », mais ils n'entendaient pas. Ils ne comprenaient rien.
Il y avait l'air bête.
Ben, il y avait de l'air bête et hautain, mais c'est parce qu'ils entendaient.
Ils étaient sourds.
C'était pauvre tellement monsieur. Fort dans ses oreilles qu'ils n'entendaient plus les gens qui
ben,
disaient
Audrey
Pinchot,
ça va être
bonjour.
Ça dans 10 ans. Là. Je suis vraiment désolée. Vous allez la croiser, aussi sympathique soit-elle, mais dans 10 ans.
Il y en a une coupe à la radio. Fait que pour continuer ce que je voulais dire, le Parti vert est perdant. Oui. Le NPD est perdant. Le chef est parti. Il a perdu son comté.
Ils ont perdu plus que les autres.
Seulement
le
7 députés. Pour ce qui est du Bloc québécois, même chose. On a perdu énormément de députés. On est rendu à 23.
On était à combien?
On était autour de 30, peut-être juste vérifier, Pascal, il me semble que c'est 30 ou 32 de mémoire dans ce coin-là. Le Parti conservateur a augmenté sa députation, sauf que Pierre Poilievre a perdu dans son propre comté.
Spécial.
Il y avait plus de 90 autres candidatures dans son comté. On a fait exprès, on voulait l'exclure et on a réussi.
En même temps, si tu me demandes mon groupe préféré, mets-moi 500 choix, mets-moi en 30, moi être capable de le reconnaître dans la liste.
Moi,
là,
mon point, c'est que j'aurais aimé ça voir qu'est-ce qui passe ou pas sans ce genre de patente-là qu'on avait rarement vu aux élections.
Mais
là,
c'était pas des gros comtés, puis en même temps, tu veux voter pour le membre de ta famille. Fait que si tu mets 90 familles, ça se peut que tu dilues le vote un peu.
C'est dans quelle élection qu'on avait réussi à trouver d'autres personnes qui avaient le même nom? Vous vous souvenez-vous de ça? C'est une élection à Montréal. Il y avait deux noms pareils sur le bulletin de nom, genre deux Maxime Bernier, mettons.
Oui.
Là.
Puis on avait fait un petit changement, on avait mis une lettre de différence ou quelque chose. Là. Mais tout, oui, je me rappelle de ça.
Puis le gars se présentait juste parce qu'il avait le même nom que l'autre puis qu'il voulait fucker à patente. Là,
donc, Poilievre avait perdu son comté, mais il a augmenté sa députation, ce qui fait en sorte que dans les prochaines semaines, Denis, il y a probablement un conservateur qui va quitter pour des raisons familiales.
Mm-hmm.
Il y aura probablement une partielle, puis on mettra probablement Pierre Poilievre à cet endroit-là, avec l'accord des autres partis de ne pas présenter quelqu'un contre Pierre Poilievre. Ça s'est déjà fait à Québec, ça peut se faire au fédéral aussi.
Beaucoup aimé son discours à Pierre Poilievre en passant hier. Ouais. J'ai trouvé qu'il a dit les bonnes choses, les choses qu'il fallait dire en temps de crise. C'était pas le temps de repartir la guerre, d'être amer dans la défaite et tout ça. J'ai beaucoup aimé. Il dit, regarde, moi, je vais collaborer avec le premier ministre, je m'en vais à Ottawa puis on s'en va travailler. Il y a quelque chose là-dedans que je me suis dit, ça, c'est un premier pas dans la bonne direction de
pour
ce qui s'en
suite.
Vient.
Exact. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Puis il y en a un, puis c'est le point que j'ai dit à Yannick, je veux un 30 secondes pour ça. À un moment donné, on a interviewé à la télé le conseiller de Pierre Poilievre, un certain Desmarais, en pleine soirée où on voit que Pierre Poilievre, il sera pas élu là, dans son comté, ça fonctionne pas. Les conservateurs, ça a été serré longtemps. Il y a eu possibilité de se dire que c'est pas une élection complètement perdue pour. Cet homme m'a fait rire, mais dans une désinvolture et un manque de contrôle total à ne répondre à toutes les questions, là, il répondait. On a fait une bonne campagne, la soirée n'est pas finie, Pierre Poilievre pourrait encore remporter. On a fait une bonne campagne, moi je l'ai conseillé tout le long. Et je me suis dit, hey, c'était peut-être ça aussi, la désorganisation puis le manque de vision qu'on a vu du côté de Pierre Poilievre pendant la campagne, parce que il restait tellement ces mêmes cassettes qui avaient été préécrites que quand j'ai entendu son conseiller démarrer, il est peut-être super bon, mais moi, ce qu'il m'a donné hier comme performance, dans une simple entrevue, en pleine soirée électorale, à me répéter la même cassette, je me suis dit, il y a peut-être une évidence là que ça a été difficile de l'orienter à sortir des sentiers battus puis d'aller dans la fluidité de la politique telle qu'on la connaît. Là.
Donc, Poilievre, vous, on va vous le faire entendre dans les prochaines secondes. Puis quand je vous dis que tout le monde a perdu, là, le Parti vert, le NPD, le Bloc québécois, le Parti conservateur, Mark Carney, on voulait un mandat fort. Il a dit qu'il avait obtenu un mandat fort, mais c'est un gouvernement minoritaire. Donc, c'est un gouvernement de 18 à 24 mois qui va forcer, comme tu l'as dit tantôt, un Mark Carney à négocier avec les autres partis.
Ta lecture est bonne. C'est vrai, puis je ne l'avais même pas vu de même encore. T'sais, tout le monde a perdu par rapport à ses objectifs, par rapport à ses aspirations.
La première fois, je voyais ça.
Mais si on regarde ça du point de vue du citoyen, c'est pas ça qui est le mieux, justement. Permettez-moi 24 heures de positivisme par rapport à la politique, mais j'aime l'idée de voir 3-4 dirigeants de partis et de valeurs différentes se jaser avant de s'enligner à négocier avec Donald Trump. J'espère que ça va se passer comme ça. À quelque part, ils n'auront pas le choix, à moins que Mark Carney décide d'aller faire du cherry picking dans les restes du NPD pour se constituer une majorité, ce que je trouverais opportuniste, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'aime mieux que tu acceptes ton statut de minoritaire puis que tu parles avec les gens autour pour essayer de trouver un consensus. On est en mode pro-Canada actuellement, là. Ben, c'est ça le Canada. C'est des conservateurs, c'est des gens qui veulent faire passer les intérêts du Québec en premier, c'est des libéraux, c'est des gens avec des valeurs, des horizons différents. C'est ça le Canada. C'est pas juste un bloc monolithique. Je trouve que ça nous représente bien la table qu'il y a là. À cette heure, par exemple, eux autres ont de l'ouvrage. Je sais pas s'ils réalisent, mais ça va être une année politique tellement déterminante, pas pour l'avenir du pays, littéralement, là, au-delà de l'endettement du pays ou de l'économie ou du cadre financier ou whatever. Comment on règle ça avec le gars de l'autre bord? C'est l'avenir du pays qui est en jeu.
Comment on se solidifie? Est-ce que toi, tu as vu ça souvent?
De même, non. Écoute, j'imagine que quand il y avait des crises et des guerres, on est chanceux, notre génération, mm-hmm. on n'en a à peu près pas vécu. Mais j'imagine qu'en temps
d'incertitude... On a eu le cocoton de Laval, là. Faut quand même ouais. pas l'oublier.
Ce que tu veux, c'est des gens qui se consultent puis qui jasent ensemble.
OK. Parce que la grande région de Québec, puis j'inclus la Rive-Sud là-dedans aussi, c'est weird. Là. Si vous avez la chance de tomber sur la carte virtuelle du devoir, allez faire une plongée sur Québec et les environs. Là. C'est bleu à grandeur, regarde-moi ça, là. Je te le montre. Là. C'est bleu à grandeur, sauf à trois endroits. Beauport-Limoilou, Québec-Centre, puis Louis-Hébert. Beauport-Limoilou, c'est Steve Lavoie qui a passé, oui. l'ex-gars de la Chambre de commerce.
C'est un comté prenable pour les conservateurs. Ça.
Exact. Québec-Centre, ben là, il n'y a pas de surprise là. Il n'y avait même pas de candidat conservateur. C'est Jean-Yves Duclos qui a passé tempête à 49,37% contre le deuxième, Simon Bérubé, qui était à 36% à peu près.
Cafouillage impardonnable pour les conservateurs, ce qui s'est passé dans cette circonscription-là.
Exact. Mais d'après les chiffres que je vois là, il n'y aurait pas passé non plus. Là.
Non.
Il n'y aurait pas passé non plus. Comté de Louis-Hébert, ben c'est Joël Lightbound qui était sur nos zones ce matin. L'entrevue est disponible sur l'application Boulevard et sur le site Internet. Mais Joël Lightbound, quand même un bon résultat. Là, 55% du suffrage contre sa plus proche rivale, Valérie Savard, qui était à 21%. Là.
Mais tu vois, Gérard Deltel réélu, Pierre Paulus réélu, Joël Lightbound réélu. Ça donne du poids à la théorie qu'en période d'incertitude, tu restes comme t'es. T'sais, nous autres, dans la région de Québec, sur la Rive-Nord, pour plusieurs, on avait notre député conservateur depuis déjà un bout. On a figé. On s'est dit probablement que ce n'est pas le temps de faire du changement. C'est un peu la mentalité, je pense, qui a motivé tout le vote d'un océan à l'autre, ou à peu près. Tout le monde, à quelques exceptions près, évidemment, sont restés sur leur position puis sur ce qui les rassure.
Ouais. Il y a des petits changements dans le comté Montmorency-Charlevoix, qui est un très gros comté. Je salue Gabardy qui va faire du kilométrage comme pas possible. C'est arrivé aux petites heures du matin. Gabriel Hardy qui a coiffé Caroline Desbiens, qui était la députée sortante. Il a remporté avec 34,7% contre Caroline Desbiens, qui était à 33,36%.
J'ai hâte de voir ce type-là en politique. J'ai eu la chance de le connaître personnellement à une certaine époque de ma vie quand il me faisait faire du jogging dans les vieux escaliers du Colisée.
Hey, faudrait que tu le connaisses encore.
Ouais, je serais dû pour qu'on refasse connaissance.
Mais tu prennes un café avec moi.
J'aime beaucoup les gens qui viennent de l'extérieur de la politique puis qui me semblent avoir des belles valeurs. Encore une fois, c'est une journée où je suis très positif, mais j'ai hâte de le voir évoluer dans ce monde-là.
Je le côtoie beaucoup, puis c'est un gars quand même qui est là pour les bonnes raisons. Puis j'en doute même pas.
Il y a des choses qui m'excitent, là. Puis je dirais pas que Gab Hardy m'excite, mais sa candidature du gars qui a pas besoin d'une job à Ottawa, comme il y en a d'autres qui avaient besoin d'une job puis qui se sont essayés. Lui, dans son cas, là, le 200 000, c'est une perte de revenus pour lui.
Oui.
Fait, c'est un homme d'affaires, Gab. Il est dans plusieurs trucs. Là, il va devoir se concentrer sur ce mandat-là à 200 000 par année. Il va perdre de l'argent, mais il va pour ses propres valeurs fondamentales.
Ça doit être toute une soirée parce qu'il a été perdant pendant plusieurs heures au suffrage. Puis je l'ai entendu sur nos ondes. Il expliquait sa défaite électorale alors qu'il n'avait pas perdu encore, mais il disait... Tabarnouche, j'ai manqué de temps. T'sais, c'est une campagne électorale qui est passée tellement vite. Et dis-moi, je voulais aller voir du monde, je voulais me faire connaître. C'est le genre de candidature où je pense que des fois, dépendamment des circonstances, le type est plus gros que le parti. Moi, c'est le genre d'individu pour qui j'aurais voté avec le NPD. Là. T'sais, des fois, il y a ça. Là. Tu dis, ça, c'est un type à qui je pense que je fais confiance. Moi, Gabardy, ça rentre un peu dans cette catégorie-là pour moi, personnellement.
Il y a des aspirations à devenir ministre du sport. Ben, il y a des connaissances là-dedans.
Il m'a fait perdre 15 livres, je veux dire.
Il veut vraiment amener les discussions. C'est ça qui est intéressant. Puis le comté dans lequel il est, moi, c'est le comté dans lequel j'ai vécu toute ma vie. Et en partie aussi, je connais beaucoup de gens. Et plusieurs étaient divisés parce qu'ils se disaient « le gars m'intéresse, le parti moins ». Versus, tu sais, il y a eu une grosse bataille de gars qui se présentent versus parti pour lequel il se présente, parce que ça a été un comté qui n'est pas nécessairement conservateur depuis plusieurs années.
Pas facile de lancer plein de messages, rien qu'avec une coche, rien qu'avec un X. Hein, c'est pas évident.
Je vais rapidement. Joël Godin qui est repassé avec presque 50 %. Oui. Dans notre secteur, Louis Saint-Laurent, je veux dire, c'est son septième mandat, Gérard Deltel.
L'increvable Gérard Deltel.
Septième mandat.
C'est exceptionnel.
Lui, il pourrait arrêter là, sans aucun problème.
Je pense que oui. Je pense que oui, mais il aime ça. Il aime ça. Il aime ça jaser avec son monde. Je place Gérard Deltel dans la même catégorie que Gabardi. En passant, je ferai confiance à l'individu au-delà du parti qu'il représente.
Moi, j'ai hâte que Deltel lâche la politique.
Pourquoi?
Je veux l'avoir comme historien, ça.
Hé, crime, tu dis, toi, tu sais qu'on en a fait des chroniques histoires avec Gérard Deltel au fil des années, puis justement, les circonstances politiques ont fait en sorte qu'on a arrêté, mais le gars est fascinant, là. C'est toute une bébite.
Allez-vous vous chicaner, là, ça veut dire quand il va venir à la politique, qui va prendre le bras gauche, qui va prendre le bras droit.
Ça va être notre prochain galop de
lutte. Notre prochain garde partagé.
Lui, s'il avait pu se battre hier, là, j'ai jamais vu Gérard Deltel aussi fâché intérieurement que... une autre prise du gouvernement par les libéraux. Le gars se faisait élire avec un nombre de votes là, exceptionnel encore pour une autre fois, mais sa peine profonde que j'ai sentie, là, et je spécule, c'était que son parti ne passe pas.
Il n'a tellement pas été au pouvoir dans toutes ces années-là, souvent qu'on pourrait dire que lui, il a un vrai trouble de l'opposition. Là,
Pierre Paulus qui a repassé avec 42,5% dans le comté Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Encore là, il n'y a pas de surprise.
Non.
Mégantic, l'érable, c'est Luc Berthold, ça n'a pas changé. Lévis-Lobinière, c'est un scandale!
Ouais.
Monsieur le Président, Jacques Gourde, qui est atteint d'un cancer, là, qui repasse aux prochaines élections, on le salue. Pour ce qui est de Sainte-Marie-Saint-Joseph-de-Beauce, Beauceville-Saint-Georges-Saint-Martin, votre nouveau candidat, c'est Jason Groslot qui est là, qui a passé avec 60 %.
C'est assez clair. Hein?
C'est majeur. Lévis-Lobinière, bon, on l'a dit, c'est Jacques Gourde. Bellechasse, Lac-Etchemin, ça bouge pas. Dominique Vien, qui est à 50 %. Mm-hmm. Et si je vais plus loin, là, Rivière-du-Loup, Côte-du-Sud, Témiscouata, ben là, c'est Bernard Généreux qui est là. Donc, quand on regarde la carte virtuelle, là, à part trois comtés à Québec, on parle de Louis-Hébert, Québec-Centre, et Limoilou qui appartiennent aux libéraux. Le reste, c'est tout du Parti conservateur. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça, Denis?
Bien, je reviens à ma théorie de tantôt. Je pense qu'on a décidé de faire avec ce qu'on avait globalement. C'est ce qui explique pour moi en partie le pourquoi du gouvernement. Puis ici, bon, on était bleu. On est resté bleu, par définition, probablement pour les mêmes raisons en partie. C'est une campagne électorale qui n'a même pas capté notre attention au total tout. Je pense qu'on voulait juste reconfirmer qu'on donnait une chance à ceux qui étaient déjà en place pour nous représenter devant l'incertitude puis devant la guerre des tarifs. Puis la beauté de cette carte-là, moi je le répète, je vois ça comme une bénédiction, la possibilité dans un an et demi, dans deux ans, de retourner en élection si ça ne fait pas. On a la table qui est constituée pour rappeler à l'ordre quelqu'un qui ne fera pas la job comme il faut. Puis je vois ça comme quelque chose de positif.
Notre nouveau premier ministre, qui était notre ancien premier ministre, avait un message à faire aux Québécois. Je vous le fais entendre.
Au cours de cette campagne, plusieurs Québécois et Québécoises m'ont ouvert leurs portes, m'ont accordé leur confiance. J'en suis profondément touché et je vous en remercie. La langue française. La langue française, la culture québécoise, elles sont au cœur de l'identité canadienne. Elles définissent le pays que j'aime tant. Et je vais les défendre sans relâche. Avec la forte équipe de députés québécois que vous venez d'envoyer à Ottawa, nous allons faire en sorte que le Québec continue de prospérer au sein de Canada fort.
Donc voilà en gros le message qu'il y avait aux Québécois.
C'est sur la crosse à dire.
Ben, il s'est forcé.
Construire une maison.
Ben oui, je suis content. Je suis content qu'il soit là pour nous défendre.
Bâtir maison. Poiliev, est-ce qu'il va rester à la chefferie, oui ou non?
Ça serait un grand honneur de continuer de me battre pour vous. parce que j'ai un honneur d'être votre voix. C'est un honneur de me battre pour les valeurs conservatrices pour lesquelles vous avez voté. Et surtout, ça va être un honneur de continuer d'avancer la promesse du Canada que chacun ici au Canada qui travaille fort pour avoir une belle vie et une belle maison abordable dans une communauté sécuritaire. C'est ça notre vision et on va le ramener chez nous. Merci beaucoup.
Donc, Pierre Poilievre veut rester. Ce sera aux membres conservateurs de décider si Pierre Poilievre doit rester. Mais chose certaine, il a perdu dans son propre comté et il devra trouver un autre comté qui sera disponible par hasard dans les prochains jours ou prochaines semaines.
Son organisation a du ménage à faire parce qu'il y a du brouhaha. Je ne sais pas dans les autres régions, dans les autres provinces, mais dans la région de Québec, il y a eu de l'insatisfaction.
La chicane.
Il y a eu des affaires bizarres. Il y a eu de la chicane. Il y a du ménage à faire dans son organisation, je pense, Pierre Poilievre. Mm-hmm. Puis l'un va peut-être expliquer l'autre. Je veux dire, si les conservateurs décident de le garder comme chef, c'est parce qu'il aura réussi à réparer peut-être certains problèmes, certains conflits. Sinon, ben, ce sera peut-être le tour au prochain. Ça va être intéressant.
Sauf qu'il a augmenté la députation.
Oui.
Il a augmenté le nombre de députés. Donc, de le sacrer d'ailleurs, je trouverais ça weird alors qu'ils n'ont personne là, actuellement. Puis, s'il y en a qui pensent que Jean Charest pourrait revenir, Jean Charest, c'est lui qui était le conseiller de Mark Carney pour la campagne. D'après moi, il devrait rester avec Carney pour les prochains jours, les prochaines semaines. Mais s'il y a une course à la chefferie du Parti conservateur, pense pas que Jean Charest pousse l'audace à réessayer. Quoique, avec M. Charest, on ne sait jamais.
Non, mais en même temps, je pense qu'il a compris que son temps était fait. Là. J'ai entendu des entrevues qu'il a faites par rapport justement à cette dernière course à la chefferie-là. Puis je pense qu'il était le dernier à avouer qu'il était un petit peu dépassé par rapport à comment faire une campagne dans son temps versus comment c'est rendu à cette heure. Puis tant mieux. Il y en a-tu d'autres qui veulent prendre la tête du Parti conservateur puis montrer un nouveau leadership? Je sais pas. Moi, c'est lui que j'ai hâte de voir. Je veux le voir à l'extérieur d'une pub YouTube, Pierre Poilievre. Je veux le voir à l'extérieur d'un rassemblement partisan. Je veux le voir travailler à Ottawa puis voir ce qu'il est capable de faire puis qu'est-ce qu'il est capable de faire avancer. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, pour vrai?
J'ai hâte de voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça sera quoi les éclipses médiatiques? Parce que ça ça finit plus. Là, les élections sont finies. Là, c'est le Canadien. Demain, ça va être Canadien à grandeur. Là.
Oui, oui. C'est, peut-être pour la dernière fois. On verra, mais c'est la meilleure éclipse médiatique que tu peux pas avoir d'une game du Canadien.
Rock Larue qui nous parle des élections. Merci, Denis.
Salut!